France Inter, le 18-20.
Si tu travailles mal à l'école, tu vas finir en apprentissage. Ghetto à échec, mal perçu, mal vécu, mal connu de ceux qui gagneraient à être apprentis, de leurs parents, des enseignants, des entreprises, alors que depuis des lustres, on essaye de changer cette image en citant par exemple les Allemands, les Autrichiens, en mettant en avant des chiffres. 7 apprentis sur 10 décrochent normalement un contrat de travail. Les murs, décidément, sont durs à abattre. Pour autant, cette fois encore, le gouvernement s'y colle. La réforme de la formation professionnelle compte un gros volet apprentissage qui doit casser tous les préjugés et en même temps les freins. On verra si cette fois c'est la bonne. Comment rendre l'apprentissage plus attractif? Comment faire comprendre qu'on ne parle pas seulement des boulangers, des charcutiers, mais que 1000 métiers sont concernés? Que penser du débat qui fâche? Confier l'apprentissage aux branches plutôt qu'aux régions? À vous de nous le dire, à vous de poser vos questions. Soyez les bienvenus.
Fabienne Saintès. Le téléphone sonne.
Bonsoir Nathalie, bienvenue à vous sur France Inter. Vous êtes la première et on vous écoute.
Bonsoir et merci de m'avoir donné la parole. Eh bien écoute, je vous appelle en tant que parent. Ma fille a 20 ans, s'est inscrite cette année dans un BTS production animale milieu équin en alternance, en se disant qu'elle allait pouvoir mêler l'apprentissage théorique, mais aussi pratique auprès d'un professionnel. Elle a envoyé en 4 mois plus de 60 candidatures, a passé plusieurs entretiens, a fait quelques essais. Nous sommes fin décembre. Ces quelques essais se sont conclus par de l'exploitation. Mmh. On a fait travailler beaucoup d'heures dans une semaine pour une apprentie, plus de 55 heures. On lui a dit qu'elle ne savait rien faire. On ne l'a pas indemnisée à la fin de ses essais. On arrive à fin décembre avec une jeune qui est démotivée, qui se rend bien compte que c'est un milieu dans lequel on veut l'exploiter et non pas lui apprendre des choses, puisque dans le mot apprentissage, il y a quand même apprendre. Et fin janvier, elle sera sortie de son école, puisqu'elle n'a toujours pas de maître d'apprentissage.
Et qu'est-ce qui va se passer pour elle, Nathalie? Qu'est-ce qui se passe fin janvier, du coup?
Eh bien, du coup, elle se retrouve sans aucune formation du tout.
Et elle sait ce qu'elle va faire? Elle sait comment elle va tâcher de s'en sortir ou pas du tout?
Eh bien, actuellement, elle essaye de rallier un BTS production animale, mais dans une école sans apprentissage, avec des stages. Mais elle n'est pas du tout sûre. Pour l'instant, les résultats sont plutôt négatifs. Et donc, elle n'aura rien. Si elle ne trouve pas une école qui accepte de l'apprendre en janvier avec une formation initiale, elle n'aura rien du tout.
Merci pour votre témoignage, Nathalie, qui résume bien beaucoup de choses aussi dont on va parler évidemment autour de cette table jusqu'à 20h sur France Inter. Pour vous répondre, pour discuter ensemble, Éric Fardel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur délégué de l'UFA, l'unité de formation par apprentissage Sainte-Thérèse apprenti d'Auteuil. Bonsoir Jean-Baptiste Danet.
Bonsoir.
Vous êtes chef d'entreprise, président de Croissance Plus. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Nathalie, Éric Fardel? Je commence par vous, avec cette jeune fille qui est très motivée, qui veut y aller et puis qui se casse le nez simplement parce qu'elle ne trouve pas. Elle trouve pas de maître d'apprentissage.
Ben effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent exactement dans la même situation. Je voudrais juste rappeler à cette maman très inquiète qu'il existe quand même des dispositifs d'accès à l'apprentissage. C'est des dispositifs mis en place par la région, toutes les régions, que ce soit Île-de-France par exemple, qui permettent aux jeunes justement d'être maintenus au sein de son centre de formation. Le temps qu'elle trouve, effectivement.
Surtout qu'elle parte pas dans la nature.
Voilà. Il faut pas qu'elle,
Pense
qu'il y a, il devrait y avoir, je comprends pas que ce CFA ne lui ait pas proposé ce dispositif. Hein, nous le faisons, nous, régulièrement. Par exemple, nous avons 100 apprentis. Nous avons à l'heure actuelle 77 jeunes qui sont sous contrat. Donc, on a 23 qui sont effectivement sur le bord de la route. C'est pas pour autant, effectivement, qu'on va les laisser sur le bord de la route et on va les accompagner. Et ça passe par des techniques de recherche d'entreprise, du coaching en permanence, de telle façon de lui permettre d'accéder au contrat d'apprentissage. Et ça, c'est des dispositifs mis en place par région, financés, qui permettent justement de maintenir ces jeunes en situation d'apprentissage.
Jean-Baptiste Danet, comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui restent que sur le bord de la route? Est-ce que c'est les entreprises d'un côté qui sont peut-être trop frileuses qu'elles devraient l'être? Il y a aussi quelque chose derrière ce que dit Nathalie et qui dit oui, mais c'est aussi de la main-d'œuvre à bon marché, ces apprentis-là, donc attention.
C'est pas si vrai que ça, que c'est de la main-d'œuvre à bon marché. D'ailleurs, C'est pas du tout comme ça que les entreprises voient le contrat d'apprentissage. Je crois que, en fait, il y a une forme d'opacité sur l'ensemble de la chaîne, l'ensemble de la ligne. Aujourd'hui, tout ce qui touche à l'apprentissage est quand même assez peu fait pour que l'entreprise y trouve son compte. Et si l'apprentissage lui-même, enfin le milieu dans lequel est le jeune et l'entreprise n'arrive pas à se mettre d'accord, en tout cas à trouver le terrain d'entente, que ce soit sur les horaires, que ce soit sur les périodes, que ce soit sur les formations, qu'elles soient techniques ou en entreprise, puis après sur le prix, il y a une chaîne d'aberrations qui fait que tout ça devient très compliqué. Deuxième chose, c'est administrativement, les dossiers d'apprentissage deviennent vraiment complexe à remplir, complexe à faire accepter. Il y a un nombre de signatures dantesque. Et si vous voulez, en fait, pour l'entreprise, on peut pas dire réellement que le contrat d'apprentissage soit de la main d'œuvre à bon marché. La preuve en est 400 000 à peu près contrats d'apprentissage en France, 1,5 million en Allemagne, 850 000 en Angleterre. Vous voyez, donc on est quand même très loin du compte, avec en plus une décrue. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est donné, et pour très peu de résultats.
Mais je vous entends parler d'opacité, je vous entends parler de chaîne d'aberration, et j'entends aussi parler d'apprentissage depuis tellement longtemps, ces chiffres que vous citez, effectivement, de 400 000 apprentis en France contre 1 700 000 chez nos voisins les plus proches. Comment se fait-il qu'on ait si peu fait de progrès ces derniers temps? Et du coup, la question corollaire, c'est est-ce que cette fois-ci, ça peut marcher? Pourquoi ça marcherait mieux cette fois-ci, finalement?
Ben, je crois qu'il y a une prise en compte, et il faut l'espérer dans cette loi qui arrive, parce que pour nous, Croissance Plus, c'est une des lois les plus importantes. C'est qu'il faut bien comprendre qu'on va régler le problème, entre autres, qu'on va régler le problème de l'emploi en France si on règle le problème de l'apprentissage, entre autres. Je dis que, en fait, tout au long de la chaîne, quand je parle d'opacité et de complexité, c'est que tout au long de la chaîne, en fait, on a fait de l'apprentissage une forme de voie de garage et on aurait dû en faire une voie royale. C'est toute la question. C'est qu'en fait, c'est compliqué pour tous.
Ça veut dire qu'il faut la reprendre au tout début, cette chaîne.
Exactement, il faut la reprendre au tout début. Ensuite, il faut identifier très précisément ce dont les entreprises ont besoin, ce qui n'est pas exactement le cas, avec les lycées professionnels qui aujourd'hui sont beaucoup trop éloignés des besoins de l'entreprise. Donc si vous voulez, je ne veux pas non plus être trop long, mais pour vous dire qu'il n'y a pas du tout de concertation entre les deux mondes.
Eh bien justement, on va entendre l'un de vos confrères, chef d'entreprise, si je puis dire. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu sur France Inter, on vous écoute.
Mais écoutez, voilà, je me suis permis de vous appeler parce que je suis chef d'entreprise et quand j'écoute un petit peu les différents problèmes que nous avons, nous chefs d'entreprise, pour des apprentis, je voudrais qu'on remonte à la source. C'est-à-dire que pour avoir des apprentis dans les CFA, il faut que les chefs d'entreprise soient convaincus.
Allez-y, Michel. On vous a perdu. J'ai l'impression qu'on vous a perdu. Ben, j'espère qu'on arrivera à vous retrouver dans un instant. Bonsoir, Luc.
Bonsoir.
Vous êtes directeur d'un CFA, vous, et on vous écoute.
Alors oui, moi je suis directeur d'un CFA des métiers de l'industrie. Alors je vais aller un petit peu à contre-courant de ce qui a été dit jusqu'à présent, parce que nous on vit la situation inverse, c'est-à-dire qu'on a des offres d'entreprises, mais on n'a pas de jeunes à mettre en face. Aujourd'hui, dans le secteur de l'industrie, on souffre à la fois de l'image de l'apprentissage, mais aussi de l'image de l'industrie, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que on va dire la saison va se terminer pour le recrutement des jeunes, il nous reste encore à peu près 50 postes à pourvoir, et on n'a pas de jeunes à mettre en face. Donc on a vraiment, nous, le souci de faire passer le message que l'apprentissage c'est une voie d'excellence, que c'est la garantie de trouver du travail juste à la sortie des études, puisque chez nous 80% des jeunes trouvent du travail immédiatement après le poste, et il y a vraiment une nécessité à changer l'image de cette formation qui est aussi une formation d'excellence, puisqu'on fait de l'apprentissage à plusieurs niveaux et pas seulement en CAP, mais on va jusque le BTS, même au-delà, la licence et parfois même le diplôme d'ingénieur.
Merci pour votre témoignage Luc, Éric Fardel, effectivement situation inverse avec ce monsieur dans l'industrie qui se retrouve avec 50 places à pourvoir, 50. C'est un chiffre énorme en fait.
Vous avez parlé d'Allemagne tout à l'heure, effectivement, et on entend parler de voie d'excellence. Pour rappeler quand même que l'Allemagne n'a pas le même dispositif du collège unique. Je pense que monsieur, lorsqu'il parle de la base, je pense qu'il a entièrement raison, c'est réfléchir aussi à ce qu'on dit, ce qu'on fait avec nos jeunes collégiens. Parce que on commence à la contrat d'apprentissage à partir de 15 ans, donc issu du 3e. Et la problématique est là, c'est quel regard pose-t-on sur l'enseignement professionnel en général? Est-ce que c'est la réponse, c'est un outil contre le décrochage scolaire, ou est-ce qu'on peut dire, moi, je vais vous donner un autre exemple, qui est assez simple, c'est plus parlant. combien de jeunes dans mon ancien établissement, qui avait un gros établissement de 650 apprentis, on avait ce qu'on appelait des classes prépa. On avait créé ça, les classes prépa. C'était des jeunes, grosso modo, issus de bac plus 3, bac plus 4, pour lesquels ils avaient une envie folle de faire de la cuisine. Simplement, pour répondre à l'attente des parents, ils ont été jusqu'au bout de la licence ou du master. Et à un moment donné, ils ont dit stop, moi je veux devenir cuisinier, je veux devenir pâtissier. Et donc, ils se sont retrouvés un petit peu aller à l'encontre des parents et assumer leur choix professionnel et donc de prendre ces postes-là. Ce qui répond encore à l'image de ce qu'on renvoie du jeune qui va intégrer un enseignement professionnel.
Et ça, c'est des questions qui reviennent souvent, mais pardon de vous poser la question de l'œuf et de la poule, mais la faute à qui ? Est-ce que c'est tout le monde à la fois ? Est-ce que ce sont les profs qui ne veulent pas envoyer les élèves dans ces filières-là ? Est-ce que ce sont les parents qui font blocage en disant « non, passe ton bac mon fils d'abord » ? Est-ce que ce sont... Qui la faute, en fait ? Est-ce que c'est l'éducation nationale qui devrait peut-être orienter vers d'autres directions ?
Pour moi, c'est tout le monde. C'est les profs, effectivement, et j'en suis un, donc à la base, mais pour moi, c'est tout le monde, effectivement. On a cette voie royale qui est allée jusqu'au bac, et après, on s'étonne qu'il y a 55% d'échecs en première année de faculté. Il y a tout ce choix, et c'est vrai que tant qu'on mettra une image négative de la voie professionnelle, on n'y arrivera pas. Et tant qu'on se mettra dans l'idée que le bac, c'est le sésame pour une réussite, il faut pas confondre études et réussite professionnelle. Les réussites d'une vie, c'est trouver vraiment le métier qu'on va exercer pendant des années, dans lequel on va vraiment éprouver du plaisir.
Jean-Baptiste Denet, puis après on retournera voir Michel qu'on a retrouvé.
Je crois que vous l'avez dit dans votre introduction, il y a encore un clivage stérile, clivage stérile profond, ancré dans notre pays, entre école et entreprise, entre filière professionnelle et filière générale. Et je crois que forcément, on découle derrière, quand on parlait des problèmes des parents, vous venez d'en parler, qui veulent pas que leurs enfants passent par l'apprentissage. Je crois que redonner des lettres de noblesse à l'apprentissage, revisiter l'apprentissage depuis le départ.
Mais comment on fait ça, Jean-Baptiste Denet ? J'ai presque envie de dire qu'il faudrait des modèles, il faudrait, je sais pas, des gens capables de dire, voilà moi ce que je suis devenu grâce à l'apprentissage. Pourquoi ça marche pas ?
Alors les modèles, on les a autour de nous. Monsieur parlait de l'Allemagne tout à l'heure. En Allemagne, les apprentis sont fiers d'aller travailler et d'apprendre un métier. Je veux dire, aujourd'hui, dans notre pays, alors qu'il y a quand même un chômage des jeunes qui est extrêmement préoccupant, et des jeunes mal formés, puisque on sait très bien que le chômage des jeunes touche essentiellement ceux qui ne vont pas jusqu'à la classe de seconde. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une corrélation entre tout ça. Je crois qu'il faut absolument revisiter l'apprentissage, mais dès le départ, créer même ce sas vers l'apprentissage à partir de la classe de troisième ou de seconde, c'est-à-dire donner la possibilité à tout le monde de pouvoir choisir déjà une filière.
Mais avec aussi un droit à l'erreur quand même, parce que c'est tellement tôt, la troisième.
Alors, et c'est très intéressant ce que vous dites sur le droit à l'erreur. Dans l'apprentissage, il y a toujours deux choses à obtenir. Vous avez l'apprentissage dans l'entreprise et vous avez l'apprentissage général. Voilà. Si vous ratez un des deux, vous êtes exclu du système. Il faut absolument arrêter ça. Il faut arrêter ça parce qu'on a le droit de rater une fois un et il faut qu'il y ait ce droit à l'erreur. Absolument. Deuxièmement, il faut que les régions et les entreprises se mettre d'accord sur savoir quel est le besoin des entreprises de la région pour déterminer quels sont les apprentis potentiels. Ensuite, je pense qu'il y a sûrement un travail avec Pôle emploi à faire, c'est-à-dire qu'il y a quand même forcément dans tous les pôles emploi de toutes les régions des gens qui doivent être formés. Remettons ces gens-là en formation et même obligeons-les.
Et du coup, la question qui fâche Éric Fardel, parce que visiblement elle fâche, est-ce qu'il faut redonner les pouvoirs, il faut donner les pouvoirs aux branches et les enlever aux régions, puisque ce sont les régions qui gèrent pour l'instant, ou est-ce qu'il faut que chacun se partage un peu ce pouvoir-là ? Comment on fait ?
C'est très compliqué de répondre.
vous voulez pas vous faire d'ennemis ?
Non, je ne vais pas vous faire d'ennemis, et je pense qu'effectivement un mix des deux est souhaitable. Mais il faut impérativement qu'on redonne effectivement les lettres de noblesse à l'apprentissage, à la voie professionnelle, je dis bien en général. Ce qui est assez important, c'est de voir, je vais faire une analogie aussi, par rapport, vous parlez du problème français qui est viscéral avec l'enseignement collège unique et la formation initiale classique lycée général. C'est lorsqu'ils ont fait la réforme du bac pro il y a maintenant quelques années, on est parti de 2 ans de BEP et 2 ans de bac pro, c'est-à-dire 4 ans, parce qu'on n'apprend pas un métier de la même façon qu'on apprend l'enseignement général, ça faut bien l'entendre. Quelle a été la réponse ? C'est qu'on a voulu, pour soi-disant valoriser l'enseignement professionnel, imiter l'enseignement général en faisant une seconde, une première et une terminale. Alors ça, c'est vraiment une problématique française, c'est qu'on n'arrive pas à sortir des ornières dans lesquelles on s'est glissé depuis des années, et on ne doit pas être étonné aujourd'hui de se retrouver toujours à l'arrière de tous les pays européens.
Alors Michel, vous êtes revenu, allez-y, finissez votre question Michel. Vous disiez que vous étiez chef d'entreprise et puis pouf, plus rien.
Oui, c'est pas grave. Je rebondis sur l'auditeur précédent. Moi, je prendrais beaucoup plus de risques. Je dirais que c'est un véritable partage. Les régions, mais les artisans locaux doivent travailler ensemble. L'éducation nationale doit libérer beaucoup plus de jeunes plus tôt pour pouvoir les diriger sur des branches. Et puis, il faut faire aussi confiance aux écoles privées de groupements d'entreprises qui existent en France, qui ont des très bons résultats, qui ont des taux d'embauche exceptionnels, en libérant un petit peu le contrat d'apprentissage par le contrat de travail qui verrouille complètement. Vous savez, les artisans ont peur maintenant de prendre un apprenti. Mmh. Si ça se passe pas très bien, eh bien, ils en ont pour 2 ans. Mmh. Donc, si vous avez mieux, je pense qu'il faut que tout le monde partage. Il faut que l'éducation nationale comprenne qu'elle doit travailler avec l'artisanat. La région comprenne qu'elle doit travailler avec nous, les professionnels. Et écoutez, nous n'avons pas du tout les mêmes avantages. Vous prenez les écoles de groupements d'entreprises professionnelles, elles n'ont aucune aide à comparer des CFA et des LEP. Moi, je trouve qu'il faut qu'on travaille ensemble. Et on ne travaille pas ensemble. Il y a déjà les CFA, les LEP et après nous. Si vous aimez mieux. Donc, c'est important. Moi, je suis pour le travail, qu'on soit écoutés et qu'on travaille ensemble.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Jean-Baptiste Danet, vous, le chef d'entreprise, président de Croissance Plus, j'imagine que vous allez dans le sens de Michel.
Bien sûr. Je pense que ce qui vient d'être posé sont deux sujets extrêmement importants. D'abord, quand on parle des lycées professionnels, il devrait être obligatoire que les entreprises des régions soient consultées pour l'élaboration des programmes et des modalités d'organisation. Ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut assouplir le rythme et la durée de l'alternance par rapport à l'entreprise, en fonction de l'entreprise. Et troisièmement, vous parliez tout à l'heure de la mixité entre régions
et branches.
Je crois qu'il faut faire très attention. Alors, très attention pourquoi ? Parce que la région est celle qui collecte quand même la moitié de ce que versent les entreprises, ou plus de la moitié de ce que versent les entreprises. Est-ce que c'est reversé?
On va rappeler un chiffre, l'apprentissage, c'est 1,6 milliard, c'est beaucoup d'argent.
Voilà. Et la deuxième chose, c'est, bien sûr, la région devrait être en obligation de résultat par rapport à cette collecte. Oui. Donc, elle doit être impliquée. Et sur la branche, il faut faire attention parce qu'il y a des métiers qui sont aux frontières des branches. Beaucoup de métiers aux frontières des branches. Des métiers qui, pour apprendre, il faut travailler sur plusieurs branches. Donc, un accord transbranche sur l'apprentissage doit absolument être... Enfin, c'est un problème qui doit être soulevé. C'est-à-dire qu'on puisse faire à la fois de la mécanique, de la soudeur et par exemple, de la plasturgie. Je sais pas. Voilà. Donc, faisons attention à ouvrir. C'est-à-dire que le régime est devenu tellement rigide et complexe, voire même opaque, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas très bien, où sont les résultats ni comment s'y prendre.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une rivalité aussi, Eric Fardel, peut-être, entre justement les lycées pro et la filière apprentissage? Est-ce qu'ils se parlent vraiment, y compris ces deux filières-là?
Dans mon cas, j'ai les deux, donc comme ça, je vais en parler plus facilement. Effectivement, il y a, lorsqu'on a deux têtes, c'est-à-dire une tête pour le lycée et une tête pour le CFA, automatiquement de la compétition, parce que nous ne sommes pas assujettis aux mêmes règles. Le financement des CFA, c'est le nombre d'apprentis. C'est pas un budget qui est voté à l'avance, c'est le nombre d'apprentis qui détermine le financement du CFA. Donc effectivement, si on n'a pas le nombre d'apprentis, automatiquement, on peut mettre en péril le budget du CFA. Me concernant, donc aux apprentis d'Auteuil à Saint-Thérèse, nous avons les deux. C'est-à-dire que nous avons à la fois un lycée hôtelier vers formation initiale et le lycée hôtelier formation apprentissage. L'avantage de ceci, et ça a été déjà exprimé par plusieurs personnes avant, c'est on peut, dans certains cas, un jeune, et j'en ai un dernièrement, Loïc, qui, au bout de 2 mois, est venu me voir en me disant « Monsieur Fardel, c'est pas possible, je n'y arrive pas. C'est trop lourd pour moi l'apprentissage. Est-ce que je peux retourner en formation initiale ?» C'est extrêmement aisé pour moi. Ça me permet de maintenir le jeune dans sa formation, tout en le préservant. Et peut-être, avec un gain de maturité, il va peut-être l'année prochaine, de nouveau en bac première, cette fois-ci, demander à réintégrer l'apprentissage. Donc cette possibilité, et ça, justement, c'est possible en interne. Mais il faut penser au financement. C'est-à-dire que comme on a un financement lycée et un financement CFA qui est différent, cette mixité, je ne peux pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. Donc à un moment donné, si je retire un de mes élèves en apprentissage, automatiquement, je perds un financement. J'en gagne pas pour autant de côté.
Damien nous appelle sur France Inter. Bonsoir Damien, soyez le bienvenu et on vous écoute.
Bonsoir, merci de prendre mon appel et bonjour à tous les invités. Moi je voulais juste emmener un petit témoignage un peu positif. Je suis jeune agriculteur en Mayenne et je me suis installé suite à une formation initiale parce que l'apprentissage avait un peu mauvaise presse de ce que les profs me disaient en fait. Et j'étais resté avec cette idée-là. Et moi, j'ai deux petits gars que je connais. Il y en a un qui est un ami à nous et un que j'ai eu en stage, que j'ai pris même en stage un peu par dépit. Et c'est deux garçons qui avaient énormément de mal à l'école, qui avaient des notes vraiment faibles. Et il y en a un, donc notre ami, là, et maintenant il est en BTS, il a 20 ans, il est premier de sa classe en BTS. Et le deuxième, je l'ai eu en stage l'année dernière déjà, et je l'ai en apprentissage cette année. Et il a quasiment doublé sa moyenne, quoi. Mmh. Et on sent qu'il est motivé et qu'il est redevenu ouvert à tout ce qu'il apprend et voilà, à plein de choses, quoi. Et donc, moi, je voulais apporter ce témoignage-là parce que je trouve ça important, parce que on nous a enfermés, quand on est en général, on nous enferme en disant que ceux qui sont en apprentissage, ils sont moins bons. Et je veux juste dire que c'est pas forcément...
C'est pas vrai. Et vous en êtes la preuve, Damien, et les jeunes qui sont autour de vous en sont aussi la preuve. Éric Fardel, c'est important, le témoignage de Damien. Effectivement, il suffit d'être au bon endroit pour que ça se passe très bien.
C'est extrêmement important. C'est lorsqu'on arrive à marier cette alchimie entre une entreprise et un jeune. C'est juste magnifique. Moi, j'ai d'excellents souvenirs. J'étais prof avant dans la formation initiale, un lycée classique. Mes meilleurs souvenirs restent un apprentissage. J'ai des tas d'exemples de jeunes en CAP, et on n'en est pas grand-chose de pour lui et on n'espérait pas grand-chose et finalement qui a réussi à faire un CAP, un BEP, un bac pro, un BTS, une licence, un master, tout est possible. Nous, aux apprentis d'hôtel, nous avons des jeunes bien particuliers quand même, nous avons des migrants, nous avons des gros décrocheurs scolaires, des jeunes en grande difficulté sociale et nous y arrivons. Aujourd'hui, en ce moment, il y a une exposition qui est en train d'être faite dans mon école. C'est de photographie culinaire, c'est extraordinaire. Quand on donne la chance aux jeunes, quand on fait tout pour que ça fonctionne en entreprise, c'est magique. C'est tout simplement magique parce que les jeunes sont revalorisés. Ils ont un exercice direct avec le public, avec les professionnels autour d'eux. Et quand ça fonctionne, c'est juste magnifique.
Voilà, une volée de réactions sur le hashtag Telson. Surtout, écoutez nos enfants et leurs aspirations plutôt que de forcer aux études générales pour réussir. Pas besoin forcément d'un bac plus 5. Lutter contre l'illusion que seul le bac général et ensuite la fac sont les voies d'excellence parce que c'est faux. Il faut mieux informer et faire visiter les PME, nous dit-on aussi. Et puis, ce témoignage, celui de Simon qui dit « J'ai terminé bac plus 3 et un CDI très bien payé. » Dédicace à mes profs qui disaient « Si tu quittes le cursus général, t'as pas d'avis. Tu vas finir dans la misère. » Un gros bisou, disent-ils. Et nous aussi, on vous embrasse, Simon. Et bonsoir à vous, Mathilde. Mathilde.
Oui.
On vous écoute, Mathilde, allez-y.
Je voulais juste... c'était un témoignage. C'était pour dire que moi, je suis passée par l'alternance deux fois. En DUT et maintenant, cette année, en Master 2. Et ça a toujours été une super expérience, autant en entreprise que pendant les périodes d'école. Et mes professeurs étaient toujours très très positifs à propos de l'alternance, etc. Mais moi, si je suis tombée dedans, c'était un peu par hasard. J'en avais jamais entendu trop parler ou quoi que ce soit.
Et alors, et finalement, Mathilde, comment vous avez réussi à trouver votre voie ?
C'est ma première année, je l'ai fait en formation initiale, en DUT, et la deuxième année, c'était possible de le faire en alternance. Et il y a des entreprises qui nous ont démarché, j'ai été prise et j'ai dit ok, je vais essayer quoi.
Et ça a marché.
Ouais, voilà, ça a marché.
On est ravis pour vous et on est ravis aussi évidemment de ces témoignages positifs qui tournent autour de l'apprentissage. J'ai envie de répéter ma question, Jean-Baptiste Danet. Comment se fait-il qu'avec autant d'exemples comme ça, de gens qui fonctionnent, de gens qui marchent, qui disent oui, moi j'ai trouvé ma voie comme ça, comment se fait-il qu'on en soit toujours à 700 000?
400 000.
400 000, pardon, ouais. C'est encore
400 000 et un chiffre qui ne progresse pas. Comme on le disait au début, c'est un système qui est rigide, qui est coûteux, qui présente beaucoup de contraintes pour les entreprises, où vraisemblablement, il y a un moment dans le cursus scolaire où on n'incite pas ces jeunes à aller vers des métiers qui peuvent être parfaitement valorisables et valorisés. Et que, en fait, l'apprentissage reste une forme de voie de garage. Et je crois qu'il faut d'abord prendre ça à l'origine, c'est-à-dire dire qu'il y a vraiment, entre l'éducation nationale et l'entreprise, et toutes les parties prenantes, la possibilité de conseiller l'apprentissage si c'est nécessaire. Deuxièmement, mieux identifier les besoins des entreprises, identifier les métiers qui en ont besoin, c'est le cas. Mmh. Et derrière, je crois qu'il est également important de considérer que l'apprentissage ne s'arrête pas au premier job. Et ça, je crois que c'est très important. C'est de dire, après tout, on pourrait créditer un compte d'apprentissage permettrait de dire, ben, quelqu'un qui sort de l'apprentissage, qui a passé 4 ans, 5 ans, 6 ans en entreprise, veut changer de métier. Il a de nouveau un crédit d'un an ou deux ans pour se transformer et changer de métier. Tout faire pour que l'apprentissage soit une voie équivalente, en tout cas, au régime des universités ou des facultés, c'est-à-dire pas du tout une voie de garage.
Et vous parliez justement de comment orienter, de qui oriente les jeunes gens. Bonsoir Anne.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Donc moi je suis professeure principale de 3e, donc en 3e il y a un palier d'orientation qui envoie les élèves vers le lycée. Et évidemment, donc on a de nombreux élèves qui demandent à partir en CAP ou en apprentissage. Que ce soit un bac pro ou un CAP, évidemment, nous, les instructions qu'on reçoit, c'est pas d'apprentissage, certainement pas. Il faut que les élèves restent dans le cursus éducation nationale, évidemment, vers le lycée technologique ou général.
Pardon, Anne, des instructions de qui ? Qui vous dit spécifiquement, voilà ce que vous devez faire ?
Le rectorat, et donc j'imagine le ministère, puisque à chaque rentrée scolaire, quand on fait le bilan des élèves qui ont eu leur brevet et qui sont passés en seconde, eh bien, si nous avons un taux trop élevé d'élèves qui vont vers la seconde professionnelle, on se fait taper sur les doigts.
Et est-ce que vous pouvez lutter contre ça ? Est-ce que ça veut dire que parfois vous avez réorienté des enfants vers la filière générale, sachant très bien qu'ils allaient à l'échec en filière générale ?
Non, alors le système d'orientation est très complexe après la 3e, c'est un vaste débat, peut-être ça serait intéressant d'y pencher aussi, en plus de celui d'après la terminale. Non, on essaye de faire de notre mieux. Si les élèves demandent à aller vers un apprentissage parce que c'est ce qu'ils souhaitent, et bien évidemment c'est ce qu'on leur laisse faire. De toutes les façons, après la 3e, s'ils souhaitent partir vers un apprentissage, nous on n'a pas notre mot à dire, quoi, voilà.
Éric Fardel, merci beaucoup pour votre témoignage, Anne-Éric Fardel, des consignes même de l'éducation nationale. Attention, pas trop d'élèves en apprentissage. Ça, c'est des choses que vous entendez aussi, que vous savez.
Ah, que je sais, oui. Je vais vous donner un exemple concret.
Allez-y.
J'ai envoyé 300 invitations à des collèges d'Île-de-France pour les rencontrer. Tout simplement pour présenter le projet d'Auteuil, de ce qu'on fait à Sainte-Thérèse, de la pédagogie par scénario, qu'on va mettre en place à la rentrée septembre, par exemple. Et j'ai eu 46 réponses. Sur les 46 réponses, je n'ai pas dit qu'elles étaient toutes positives, j'ai eu 15 réponses positives et j'ai eu 31 réponses négatives. Vous comprenez qu'à un moment donné, je pense que rencontrer des jeunes, et je ne parle même pas que simplement parler d'apprenti d'Auteuil de mon établissement, mais parler d'apprentissage, parce que je suis vraiment habité par ça. J'avais envie vraiment, c'était mon objectif, c'était parler d'apprentissage à ces jeunes-là. J'ai eu que 15 réponses positives.
Jean-Baptiste Denet, on a une plainte, tiens, je vous la soumets. J'entends dire que les lycées pro sont trop éloignés des besoins des entreprises. Ah bon, mais ils forment des élèves professionnellement et intellectuellement en offrant une formation générale également.
Oui, très bien. Je pense que autour de cette table, je pense qu'on est tous
si
à peu près
d'accord. Justement, cette formation enseignement général, ça veut dire quoi ? Mais il faut savoir qu'en fait, c'est exactement le même programme. Un jeune qui est en lycée, en CAP, va exactement avoir le même programme que le jeune qui est en CAP en apprentissage. Ce sera exactement le même examen. Et il y a aussi les formations enseignement général. Ce qui prouve bien la méconnaissance aussi de beaucoup de nos compatriotes sur l'apprentissage. Ils pensent que c'est uniquement de la formation professionnelle et que ce n'est pas du tout de la formation enseignement général. Bien évidemment, il y a exactement le même dispositif, que ça soit en formation initiale qu'en apprentissage.
Allez, bonsoir Thierry, bonsoir à vous, soyez le bienvenu. Thierry, on vous écoute, allez-y.
Oui, bonsoir Thierry de Lyon. Un petit témoignage et une question ou un étonnement. Donc moi je suis cadre dans l'industrie du biomédical où je recrute finalement aussi bien des bac plus 5 en communication que des ingénieurs, dont pas mal sont issus de l'apprentissage. Et je suis toujours étonné que le grand public et les médias, vous en faites partie finalement.
Mais bien sûr.
Ne parler que d'apprentissage au travers des métiers manuels. Je pense qu'on aurait tous à y gagner en communiquant plus sur ces possibilités. D'ailleurs, la jeune tout à l'heure s'est exprimée sur un master où elle a découvert par hasard qu'il existait des filières d'apprentissage. 100% des jeunes qu'on a eu la chance d'encadrer, soit en communication, soit en école de commerce, soit en école d'ingénieur, sont employables dès le premier jour, soit chez nous, soit ailleurs. Ils en sortent tous plus riches, puisque finalement, ils profitent de leurs 2 ans, 3 ans, 4 ans ou 5 ans pour découvrir toutes les fonctions d'une entreprise. Je suis dans un très gros groupe. On est très friands de ces formations. Finalement, peu d'écoles, les écoles qui l'ont comprise, donne, enfin, je veux dire, on 100% d'embauche très rapidement. Donc, arrêtons de penser qu'il faut faire des prépas et des cursus linéaires. L'apprentissage peut être fait à bac plus 2, à bac plus 4, à bac plus 5, ça peut être un mixte. Et je pense qu'on aurait tous à y gagner. Cette image qu'on a, bah, c'est l'image que j'avais moi il y a 25 ans quand j'ai fait mes études supérieures, où en effet l'apprentissage n'était pas une voie royale.
Merci, voilà. Merci Thierry pour votre témoignage. C'est important, Eric Fardel, vous, des apprentis d'Auteuil. Ce que dit Thierry, il dit que, et c'est vrai, dans l'image, il y a l'apprentissage, c'est boucher, charcutier, boulanger, ébéniste. Attendez, il y a 11 000 métiers qui peuvent, dans lesquels on peut rentrer par l'apprentissage. On ne le sait pas, en fait, ou on le sait très peu.
C'est une problématique parce qu'effectivement, dès qu'on parle d'enseignement supérieur, déjà les taux de rupture des contrats, ils sont largement inférieurs. Donc on est d'ordre de, je crois, de 11% si ma mémoire est bonne, alors qu'on est à 28%, voire 38% sur des niveaux 5, niveau 4, hein, c'est-à-dire niveau CAP ou bac pro. Donc déjà, on parle pas du tout de la même chose. C'est vrai que ça reste de l'apprentissage, mais il y a une césure entre les deux. Il y a une phrase qui revient de façon récurrente depuis des années, c'est le mot. Enfin, c'est la locution « voie de l'excellence ». Vous l'avez, je crois, utilisé aussi à un moment donné. C'est, je répète, c'est « voie d'excellence » parce que effectivement, c'est la meilleure façon d'appréhender le métier, d'être plus performant, d'être très rapidement employable, parce qu'effectivement, on connaît les congés payés, on connaît tout ça. On sait, on a un environnement professionnel beaucoup plus connu. Mais par contre, est-ce que c'est aussi une voie pour lutter, un outil pour lutter contre le décrochage scolaire? C'est ça tout l'enjeu aussi d'apprentissage. C'est qu'est-ce qu'on entend par apprentissage entre des niveaux 5 et niveau 4 par rapport à l'enseignement supérieur? Est-ce qu'il n'y a pas une césure là aussi entre ces deux formes de l'apprentissage? Quelqu'un qui a réussi son bac aisément et qui prenne la voie de faculté classique ou la voie fac, puisque les facs font aussi d'apprentissage. C'est une grande question. C'est vraiment qu'est-ce qu'on entend par apprentissage? Est-ce que c'est une réponse au décrochage scolaire ou simplement une voie alternative de la formation générale qu'on retrouve à la faculté?
Question rapide et donc réponse rapide sur franceinter.fr. Est-il possible de faire un apprentissage à l'étranger? Ça existe ça, Eric Fardel, ou pas?
C'est rigolo.
C'est rigolo.
Oui, c'est rigolo parce que ça existe effectivement. C'est Erasmus+ qui propose ça. Et en fait, ça sous-entend que l'entreprise accepte que son jeune parte dans une entreprise autre, mais ne va continuer à le rémunérer, ce qui est assez compliqué quand même. Mais ça existe effectivement lorsque nous avons des grands groupes qui ont effectivement des succursales à l'étranger et qui à ce moment-là peuvent effectivement les placer.
Jean-Baptiste Danet, pareil, réponse courte, question courte. C'est une question de Nabil sur franceinter.fr. Quel est le salaire d'un apprenti en première année? C'est peut-être ça qui les bloque.
Alors, c'est probablement pas peut-être ça qui les bloque, c'est que c'est également un autre niveau de complexité. C'est un apprenti en première année, je peux vous donner son salaire en fonction de son âge, et pas en fonction de son cursus, qui est incroyable. Donc ça peut varier de 650, je crois, à 850 €, ça dépend de son âge.
370 euros, voilà. Plus bas salaire.
Voilà.
Et plus haut, c'est 1155.
Et le plus haut, 1150, et ça dépend de l'âge, ce qui est une aberration. Il faut pas raisonner comme ça. Tout est pris à l'envers.
Dan, au 01 45 24 7000, bonsoir, on vous écoute.
Oui, bonsoir. Moi je voulais apporter mon témoignage par rapport à mon fils qui a aujourd'hui 19 ans et qui est rentré en apprentissage cuisine à l'issue de la troisième. Donc il était chez un patron, chez qui, dans un premier temps, ça s'est passé pas trop mal au niveau de l'intérêt de l'apprentissage cuisine. Mais très très vite, en fait, il s'est retrouvé à faire des semaines de 60 heures, à ne pas avoir de jours de congé avant et après ses retours et ses départs au CFA. On a essayé d'alerter le CFA qui nous a absolument pas suivis. On nous a dit, écoutez, s'il respecte pas le droit du travail, vous n'avez qu'à chercher un autre employeur. Et en fait, ça s'est terminé au prud'homme. Nous avons eu gain de cause pour effectivement faire valoir que les conditions d'apprentissage de notre fils étaient absolument pas faites dans les règles et dans le respect du cadrage de cet apprentissage. En plus, n'ayant lui que 15 ans, il était d'autant plus jeune. Et voilà. Et moi, je voulais quand même, j'entends beaucoup parler d'apprentissage et je voulais quand même dire attention, attention, parce que je crois que dans le monde de la restauration, notamment, il y a énormément d'abus, énormément de jeunes qui sont utilisés, et on parlait des salaires juste précédemment, c'est 25% du SMIG. Mmh. Donc mon fils gagnait 400 euros par mois pour travailler 60 heures par semaine.
Ça veut dire qu'il a laissé tomber votre fils, Dan, ou pas?
Ça veut dire effectivement qu'on a cherché, donc on a trouvé un autre employeur pour sa deuxième année d'apprentissage. Il a mené à terme son CAP de cuisine qu'il a obtenu, mais il ne veut absolument plus entendre parler de cuisine aujourd'hui, parce que voilà, il a été quand même assez dégoûté et il s'est rendu compte. Bon, effectivement, alors on lui disait, la cuisine c'est un métier de passion, et au nom de la passion, c'est vous renoncer à votre vie, à vos amis, à votre vie sociale, au sport. Enfin, nous on avait un fils qui était très tourné par toutes les relations amicales, le sport, on habite en montagne, et tout s'est arrêté d'un coup, d'un seul. Donc voilà, moi je voulais dire quand même que je crois qu'il y a des lois qui existent pour cadrer l'apprentissage et qu'elles sont malheureusement pas suffisamment, les CFA ne sont pas suffisamment garants des conditions de travail de ces jeunes apprentis.
Merci.
Et que dans le cadre de l'échec scolaire notamment, puisqu'on envoie beaucoup de jeunes en échec scolaire vers l'apprentissage, il faut aussi parler de l'échec de l'apprentissage et que c'est pas non plus même si on sait que ça peut aider des jeunes effectivement à trouver leur voie.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup Dan. On a compris le message et le parcours de votre fils Jean-Baptiste Danet. Il faut que chacun fasse le ménage aussi. Il y a effectivement des entreprises qui doivent faire le ménage et voir comment elles emploient ces apprentis effectivement.
Bien sûr, bien sûr. Je crois que il y a forcément des et partout en France, partout dans le monde, il y a des entreprises qui abusent des possibilités qui leur sont offertes. Je crois que c'est pas, je crois que c'est pas un cas courant, enfin, sur l'apprentissage. Alors, mon compagnon de studio se connaît ça bien mieux que moi, mais je crois pas que ce soit si courant que ça. Je crois que ce qui est très compliqué pour l'entreprise, c'est d'arriver à caler les bons horaires avec le contrat en question. Et donc peut-être que peut-être dans ces métiers de l'hôtellerie on parle d'horaires très difficiles, mais si on regarde bien, je crois que les métiers de l'hôtellerie, les métiers de la restauration, je crois que c'est 200 000 emplois non pourvus en ce moment en France, ou 150 000, c'est absolument énorme, avec des jeunes qui pourraient être beaucoup mieux formés.
Éric Fardal, il nous reste juste une petite quinzaine de secondes pour conclure. Effectivement, charge aussi pour les CFA peut-être de faire attention où sont les enfants et où sont les étudiants et les rapatrier s'il y a un problème.
C'est une priorité, c'est une de nos priorités. Chez nous, nous travaillons énormément la relation avec le jeune, c'est-à-dire qu'à chaque retour d'entreprise, impérativement, nous faisons un point. Et juste pour ajouter, il serait intéressant de faire une blacklist des entreprises qui ne respectent pas, tout simplement, l'apprentissage.
Et l'idée est lancée. Merci à tous, merci beaucoup pour vos nombreuses questions. À demain.